Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay. You know, it's okay.
C'est un anniversaire que nous allons célébrer cette semaine dans l'épopée, il y a 80 ans. Le 27 novembre 1942, l'un des futurs géants de l'épopée des musiques noires voyait le jour à Seattle aux États-Unis. Je parle évidemment de l'illustre et regretté Jimi Hendrix, que nous allons évoquer avec trois invités, tous fervents admirateurs du légendaire guitariste et auteur d'ouvrages qui narrent la destinée tumultueuse de cette icône flamboyante. Mezzo, Jean-Michel Dupont et Yazid Manou, soyez les bienvenus.
Salut.
Salut, Joe.
Yazid Manou, vous faites paraître aux éditions Petit à Petit un livre dessiné dont vous signez les commentaires en compagnie de 27 illustrateurs. À qui est destinée cette BD ?
Elle est destinée à tout le monde. Elle n'est pas réservée à une catégorie précise de gens. Alors c'est vrai que quand on parle BD, moi j'ai toujours l'idée, je ne suis pas un fervent passionné de BD, mais on a toujours l'impression que c'est destiné à une catégorie de gens plus jeunes. Mais la BD, c'est de 7 à 77 ans. Donc les fans d'Hendrix, ceux qui veulent le découvrir de façon ludique et pratique, peuvent commencer aussi par là, pourquoi pas.
Vous couvrez toute la carrière de Jimi Hendrix dans ce livre ?
Exactement, monsieur.
Je vous posais la question car vos camarades, Mezzo et Dupont, ont choisi de compter en deux volumes l'histoire de Jimi Hendrix. Et le premier tome s'achève en septembre 1966, avant que le succès n'arrive. Et je dois dire que les premiers pas de Jimi Hendrix m'ont passionné. Est-ce que votre récit s'adresse à des spécialistes de l'histoire afro-américaine, Mezzo ou Dupont ?
Alors non, surtout pas. Parce que nous, notre approche, c'était un peu ce qu'on avait essayé de faire avec Love in Vain aussi et avec Robert Johnson. C'est de prendre un personnage, mais de ne pas uniquement le traiter lui, de raconter son époque, le portrait de son univers. Et donc on essaie de s'en servir comme fil rouge pour raconter une époque, pour se promener dans cette période-là.
Messieurs, comme les grands classiques de Jimi Hendrix sont devenus universels, je vous propose de nous intéresser à la jeunesse de ce grand guitariste. Dans vos deux ouvrages, vous insistez sur le rôle essentiel de Al Hendrix, le père de Jimi Hendrix. Peut-on dire qu'il fut le personnage clé dans le développement artistique de Jimi Hendrix, Yazid Manou ?
Ah, il est indéniable qu'il a eu une importance considérable, au-delà du fait qu'il lui a acheté sa première guitare, donc acte fédérateur. Mais surtout, Jimmy, quand il a été happé par la musique, il écoutait aussi déjà les disques, ou en tout cas les morceaux qui passaient à la radio du papa.
Alors, précisons, Mezzo et Dupont, que vous ne dessinez pas un portrait complaisant de Al Hendrix. Est-ce que vous avez romancé son parcours, son caractère, grossi le trait en quelque sorte ?
Non, je ne pense pas qu'on ait grossi le trait, mais en fait, le but, c'est de montrer en fait, l'homme derrière le super-héros. En fait. Si je parle de Batman un jour, c'est pour parler de l'homme qu'il est. Bah, c'est un peu le Batman de la musique, enfin, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est en fait, montrer comment, avec une enfance pareille, quelqu'un arrive à ce génie-là. C'est-à-dire que ce chemin, à travers évidemment la saga musicale qu'il a traversée, montrer l'homme dans ce qu'il est, parce que c'est là où il est attachant en fait. Je veux dire, quand on regarde une superstar, on la voit sur scène et tout, bon évidemment on en prend plein les yeux, plein les oreilles, mais moi et Jean-Michel, on voulait savoir ce qui se passe derrière en fait.
Mais pour répondre à la question concernant précisément Alan Hendrix, nous on a essayé d'en faire un portrait en demi-teinte, en se basant sur les éléments dont on disposait. Le témoignage de Léon, le frère de Jimmy, n'est pas très tendre par rapport à son père, même s'il avait aussi beaucoup d'amour. Et nous, on essaie de montrer Al comme un personnage qui peut être à la fois complètement inconsistant, inconséquent et parfois même toxique, évidemment, mais aussi qui peut être tendre, qui peut s'occuper de ses enfants, etc. Donc on essaie de le montrer et qui peut avoir de la fantaisie parce qu'il y a une partie quand même de la dimension artistique de Jimmy qui vient de ses parents, je crois. Yazid sera d'accord là-dessus. Il était danseur quand même, il aimait la musique. Mais nous, on n'a pas voulu sacrifier enfin, la version officielle qui est bon, ben, c'est grâce à son père que Jimmy est devenu un musicien, parce que son père a quand même été souvent un frein. Il aimait pas trop, enfin, il l'empêchait de jouer à gauche. D'après ce que j'ai lu dans les biographies, toujours après, je parle sous le contrôle de Yazid, qui a peut-être d'autres sources. C'est toujours, quand on est avec Yazid, il faut toujours être prudent de ce qu'on dit. Mais nous, en fait, moi, je me suis basé beaucoup pour le scénario sur les biographies que j'ai lues et le témoignage de Léon et de Jimmy aussi, qui a dit que son père lui avait dit qu'il était un mauvais chanteur. Et je pense que le fait que son père lui ait dit qu'il était un mauvais chanteur, qu'il était incapable de chanter, a beaucoup joué après sur tous ses grands complexes. Al n'avait pas non plus les moyens de lui payer ce dont il avait besoin. Mais il a quand même, là je suis complètement d'accord avec Yazid, il l'a quand même fait évoluer dans un environnement musical et lui a payé sa première guitare.
Ça, oui, Jimmy n'a eu de cesse de prouver à son père que finalement il valait quelque chose. Donc en cela aussi, Al a participé à l'élaboration de ce génie finalement, puisqu'il voulait absolument, absolument lui prouver, lui écrivait des lettres et tout, etc. Hein, Yazid ?
Pour résumer, il faut savoir que non, ils ont eu des rapports très ambigus. Voilà. Donc oui, l'un ne va pas sans l'autre. Il y a eu énormément de tensions. Jimmy, enfant, a assisté aux bagarres incessantes entre son père Al et sa jeune maman Lucille, qui partaient, qui revenaient, ils s'engueulaient, ils buvaient. Enfin, c'était quand même assez compliqué. Quand la maman de Jimmy est décédée, donc en 58, le père n'a pas autorisé ces deux garçons à aller à l'enterrement. C'est quand même quelque chose qui vous marque, ça. Oui. Le fait que Jimmy soit parti à l'armée, il y a aussi le fait qu'il suivait les traces de son père, puisque Al était aussi à l'armée. C'est quand même Al qui a envoyé à Jimmy, quelques temps après qu'il soit arrivé à l'armée, sa guitare. Jimmy ne pouvait pas être sans guitare. Donc, papa, il me faut ma guitare. Le père lui a envoyé. Quand Jimmy est arrivé à Londres, donc je passe les étapes, le premier coup de fil en PCV, ce qui a beaucoup énervé le papa, c'est de dire « Papa, je suis à Londres, on va faire de moi une star ». Donc, il y a toujours eu ce genre de rapport. Al a toujours été extrêmement sévère. Mais on a retrouvé des cartes postales que Jimmy écrivait à son papa du temps de son service. Il n'y a aucune violence, il y a beaucoup d'amour. Et donc à chaque fois, indépendamment de tout ce que Jimmy avait vécu avec son père, il lui écrivait des cartes, il demandait des nouvelles de la famille. Et donc il n'a jamais, jamais abandonné son papa. Mais quand Jimmy a quitté l'armée, il était hors de question pour lui qu'il revienne à Seattle. Voilà. Donc tout ça, c'est des rapports très, très ambigus et compliqués à comprendre.
Quoi qu'il en soit, dans sa prime jeunesse, Jimi Hendrix entend la musique qu'écoute son père et par exemple Louis Jordan.
Times roll.
Let the Good Times Roll, Louis Jordan en 1946. Jimi Hendrix avait 4 ans et entendait forcément ces artistes de Rhythm and Blues dans la maison familiale. Vous avez eu la bonne idée de proposer à la fin du livre Kiss the Sky, messieurs Mezzo et Dupont, les références discographiques des œuvres citées dans votre récit. Est-on certain que Jimi Hendrix a entendu tous ces titres ?
Enfin, il les a entendus d'abord parce que pour beaucoup, il les a joués. Et alors après, au tout début, oui, enfin... Par exemple, si on lit les mémoires de Hall, bah lui, il raconte les disques qu'il écoutait. J'ai pas inventé. Après, sur le blues, c'est aussi une histoire que Yazid connaît bien, forcément. C'est qu'en fait, Jimmy a découvert le blues à travers des amis de Hall qui sont venus vivre chez lui parce qu'ils se retrouvaient un peu dans la merde. Ils n'avaient pas d'endroit où vivre. Ils sont venus vivre pendant quelques temps. Et eux, c'était des fous de blues. Ils sont arrivés avec leurs disques, Muddy Waters, Elmore James et tout ça. Et d'après ce qu'on sait, c'est là que Jimmy a eu son initiation au blues. Et que là, du coup... Il est très vite passé des trucs de jazzy que son père aimait et sur lesquels il aimait danser, au blues. Je ne sais pas ce qu'on pense, Yazid.
Ah, mais c'est très bien, quand je dis rien, c'est que c'est très bien.
Vous, Yazid, dans votre livre, vous avez listé tous les albums ou presque parus depuis 1967. On réalise subitement qu'il n'y a eu que 4 disques officiels de Jimi Hendrix et 15 albums posthumes. Le dénominateur commun, en tout cas à tous ces albums, c'est le blues. On a souvent présenté Jimi Hendrix comme un guitariste de rock, mais il était avant tout un bluesman, et il faut le répéter. Qui étaient ses héros dans l'univers du blues, Yazid Manou ?
Jimi n'avait pas de héros. C'était une éponge qui absorbait tout. On connaît les gens que lui a influencés. L'image à laquelle on pense quand on parle d'Hendrix, il y en a une dizaine, mais celle qui vient à l'esprit, c'est quand Jimmy joue avec ses dents. Bon, il ne l'a pas inventé. T-Bone Walker le faisait bien avant. Donc Jimmy s'est imprégné de tout le monde. Quand il a rencontré Steve Cropper, donc le guitariste d'Otis Redding, ils se sont échangés des plans. Quand il rencontre plus tard Albert King, qui était gaucher, qui ne changeait pas les cordes, il s'échange des plans. Il a écouté Johnny Hooker, il a écouté Robert Johnson, il a écouté Lightning Hopkins. Quand il avait 15 ans, il a vu Elvis Presley. Tout ça, il l'a intégré dans son jeu, à sa façon.
Mezzo et Dupont, vous aviez fait paraître en 2014, déjà chez Glénat, un livre dessiné consacré à Robert Johnson. Voyez-vous Hendrix comme un héritier de ce pionnier du blues, Mezzo ?
En fait, c'est deux figures énormes. C'est pour ça qu'on prend ça comme un diptyque. Il y a Love in Vain d'un côté, qui est suivi par Kiss the Sky. Et pour moi, en tout cas, et pour Jean-Michel, il va le dire aussi, c'est vraiment l'essentiel de la musique populaire du XXe siècle, américaine en tout cas.
Oui, pour nous, c'est vraiment deux personnages qui se répondent beaucoup. C'est pour ça qu'en fait, quand on a cherché, après Love in Vain, ce qu'on pourrait faire, en étant d'accord sur le fait que c'était bien de faire la musique, c'était assez évident de faire la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, c'était donc évidemment le rock. Et pour ça, le personnage qui s'imposait, c'était Hendrix. Parce que pour nous, Hendrix est au rock ce que Robert Johnson est au blues. C'est-à-dire quelqu'un qui réinvente la musique, qui concourt à la transformer, qui a un rapport à son instrument qui diffère de celui des autres, d'un point de vue narratif, romanesque ou autre. Plein d'éléments. Ils sont morts au même âge, de manière tragique. C'était tous les deux des hommes avec des personnalités très tourmentées, assez sombres au bout du compte, même s'ils pouvaient être extravertis. C'était aussi des grands consommateurs de femmes. Enfin, il y a des tas de choses qui font que ce sont des personnages jumeaux à des périodes différentes. Et alors après, le rapport entre les deux, d'un point de vue narratif, est intéressant parce que Johnson est mort en 38, Hendrix est né en 42, donc finalement, il se passe très peu de temps. Et donc, c'est pour ça que Mezzo parle de diptyque. On s'est dit, voilà, nous, notre socle de musique, la musique qui nous intéresse, c'est quand même le blues, c'est quand même le rock, c'est quand même notre socle. Bah, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de raconter le blues à travers un personnage emblématique, le rock à partir d'un personnage emblématique. Maintenant, c'est bon, on a fait ce qu'on voulait faire.
Je vous propose de remonter jusqu'en 1936. Voici Dust My Broom par son auteur original, Robert Johnson. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. I'm gonna get up in the morning. I believe I'll dust my broom. The black man you've been loving, good friend can't get my room. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. If I can't find in West Helena, she
must be in East Monroe, I know. I don't want no woman, won't send me downtown, man, she me. I don't want no woman, won't send me downtown, man, she me. She's a no good, Tony. They shouldn't lie on the street.
Does My Broom, Robert Johnson, le 23 novembre 1936 à San Antonio. Yazid Manou, vous êtes connu en France comme le spécialiste incontestable de l'œuvre de Jimi Hendrix. Vous aviez même créé en 1990 le festival Jimmy's Back à l'Olympia à Paris en présence de Noël Redding, le bassiste de Jimi Hendrix. Quel souvenir garderez-vous de cet événement? Une aventure périlleuse ou une commémoration majestueuse?
Cette date, cet événement a totalement changé ma vie. Je suis devenu le référent pour Jimi Hendrix à partir de ce moment-là. À l'époque, j'avais 25 ans et il n'était pas possible pour moi d'ouvrir le journal de 20h et d'entendre un animateur annoncer « Voilà, rappelez-vous, Jimmy est mort il y a 20 ans et on passe à la météo. » Non, il fallait qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai tout mis en œuvre pour commémorer cette date. Et c'est vrai que ça a été un point essentiel dans ma vie. Parce que sur une semaine à Paris, ça a été le plus gros événement dans le monde pour les 20 ans de sa mort. Donc c'était quelque chose de magique, quelque chose d'absolument pas calculé. D'ailleurs, j'ai perdu de l'argent au moment de l'opération, que j'ai rattrapé l'année d'après. Mais j'étais comme un cheval fou. Je ne savais pas vraiment où j'allais. À un moment donné, on me dit « Mais tiens, pourquoi tu ne ferais pas l'Olympia ?»« Ben oui, tiens, ouais, je vais faire l'Olympia. » Comme je cherchais des groupes pour jouer, j'ai eu tout un tas de copains qui m'ont envoyé des cassettes, des disques. « Tiens, tu devrais prendre un tel, un tel, un tel. » Et j'ai ces souvenirs où un jour, je reçois une cassette, si les gens savent encore ce que c'est qu'une cassette, avec un son pourri. Et je dis « Voilà le groupe que je veux. » Mais je ne m'étais pas rendu compte, ou alors je m'en foutais, que ce groupe était un trio inconnu new-yorkais. J'ai dit, mais je les veux, et je les ai eus. Voilà. Donc c'était quelque chose de fou, et surtout quelque chose d'absolument non reproduisible. Parce que ça a marché, il n'y avait pas de calcul, tout était plein, les gens n'avaient jamais vu un événement pareil sur Hendrix. On m'a demandé ensuite de refaire des hommages, mais voilà, c'était un one shot, je l'ai fait une fois, et c'est vrai que si maintenant je refais un hommage pour les 100 ans, les 60 ans, les 80 ans, peu importe, il va falloir faire des calculs de partenariat, de billetterie, de pas perdre d'argent, de penser à des histoires de marketing dont je n'avais aucune idée, j'apprenais mon métier complètement, donc ça s'est fait en une fois, c'était magnifique, stop.
Et vous avez fait venir Noël Redding.
Entre autres, oui, c'est vrai que Noël Redding a été le sésame parce que le fait d'avoir le bassiste de Jimi Hendrix qui accepte de participer à l'événement, d'ailleurs il est resté une semaine à Paris, c'était le sésame parce qu'ensuite, quand j'appelais les artistes, les gens disaient oui. Donc j'ai eu comme ça Randy California, dont on parle en tout cas dans le livre puisqu'il avait 15 ans quand il a joué avec Jimmy. Donc il a formé le fameux groupe Spirit quelques temps après. Au niveau français, Axel Bauer a accepté de jouer. Louis Bertignac était là aussi. Paul Personne qui m'a dit « Moi, je viens et je fais Red House ». C'est exactement ce que je voulais de lui. Donc, c'est vrai que ça m'a ouvert les portes. J'ai eu Amar Sandi, j'ai eu Étienne Bappé. Enfin, je continue. J'ai eu 11 formations qu'on jouait Hendrix pendant 4 heures. Donc, merci à Noël Redding, merci à Jimmy.
Dans votre livre dessiné, vous laissez entendre que les relations entre Jimmy Hendrix et Noël Redding ont été houleuses, notamment à partir de 1968. Pourquoi ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le départ, quand le jeune Noël Redding, dans sa province de Kent, répond à une annonce paru dans le Melody Maker parce que les New Animals cherchaient un nouveau guitariste, il s'est pointé, la place était déjà prise, et c'est là que Chas Chandler, ex-bassiste du groupe, lui a proposé de jouer avec Jimi Hendrix. Les gens ne le savent pas ou n'y pensent pas, au tout départ, Noël Redding est un guitariste. Quand il a intégré le trio The Jimi Hendrix Experience, on lui a dit « tu vas te mettre à la basse », ce qu'il a accepté. Et ensuite, il y a eu des tensions qui sont apparues. Alors déjà, le fait qu'au moment où le groupe a explosé, il y en a un qui se plaignait de ne pas avoir l'argent, c'était Noël Redding. Et quand on lit la bio qu'il a écrite peu après, qui est sortie en 90, c'est une bio assez aigrie, assez amère, puisque Noël passe son temps à lister les concerts, ce que ça a rapporté au management, et lui ne voyait pas passer l'argent. Bon, donc il y avait déjà ce problème-là. Ensuite, il y a eu des tensions, parce que Hendrix en faisait trop, c'était un perfectionniste. Donc quand il faisait une prise, au lieu d'en faire 4, il en faisait 50. Et la 51e, pour lui, il y a toujours mieux à faire, et donc ça ne s'arrêtait pas. Donc Noël Redding a commencé à péter les plombs à ce niveau-là. Et c'est vrai que de plus en plus souvent, à partir de 68, Jimmy, souvent des fois à l'insu de Noël, retirer les parties de basse de Noël Redding. Et quand on l'écoute bien, on ne reconnaît absolument pas Noël Redding. Il y a même des moments où ils en sont venus aux mains. Donc l'apothéose a éclaté le 29 juin 1969. À la fin du concert de Denver, Noël Redding a appris que Jimmy voulait étendre le groupe avec d'autres artistes. Il avait déjà contacté Billy Cox. Il a dit « moi, je me barre ». Et ça a été la fin de l'expérience.
Mezzo et Dupont, est-ce que vous diriez que Jimi Hendrix était une forte tête, un artiste solitaire et intraitable ?
En tout cas, moi, tel que je le connais, avec ce que j'ai lu et puis le scénario de Jean-Michel, je le vois plutôt comme quelqu'un de très timide, je veux dire très réservé, et avec une humilité qui est incomparable chez les grandes rockstars en général. Mais c'est ce qui fait les grandes rockstars, à mon avis. C'est ça, c'est des gens qui prodiguent de la beauté, mais ils restent humbles. Moi, je le vois comme quelqu'un de très timide. Voilà, il a toujours été décrit comme ça. On le voit rentrer sur un plateau de télévision dans des vidéos. Il a les épaules voûtées, il ne regarde pas vraiment dans les yeux. Il regarde en bas, il répond. On lui dit « vous êtes un génie », il lui dit « il n'accepte pas le mot ». D'ailleurs, il paraît qu'il n'aimait pas qu'on lui dise ça, parce que ça le détournait de son chemin. Par contre, sur scène, oui, il se déchaînait. Alors après, évidemment, il avait ses accès de colère, mais c'était quand même quelqu'un de plutôt réservé et timide.
Est-ce que le fait qu'il soit réservé et timide était une manière de se préserver du monde extérieur, de la violence de l'Amérique raciste des années 50 et 60, Jean-Michel Dupont ?
Je crois qu'il n'était pas réservé et timide pour se préserver, il était réservé et timide parce que c'était sa personnalité. Mmh. Et en plus, comme c'est une personnalité qui s'est construite aussi sur une enfance qui est extrêmement traumatique, je pense que c'est là qu'il faut trouver la raison de sa personnalité. Donc oui, moi je répondrais comme médecin, que je ne pense pas du tout que c'était une personnalité forte. Je pense que c'était quelqu'un qui avait en lui énormément de force, énormément de choses à exprimer. Mais dans le sens du comportement en société, il n'était absolument pas une personnalité forte. C'était quelqu'un de très effacé, qui n'aimait pas trop s'imposer. Et même dans sa manière de conduire sa carrière, finalement, il a souvent avancé parce qu'on est venu le chercher. Il n'avait pas de stratégie, il n'a jamais vraiment eu des objectifs très précis. C'est parce qu'au hasard des circonstances, on est venu le chercher. Et ce qui était sa force, c'est surtout son talent et son génie. C'est ça qui s'imposait et qui faisait que les gens allaient le chercher.
Mais enfin, force de caractère, je veux dire, ce n'est pas forcément parce que vous n'êtes pas violent et que vous êtes discret que vous n'avez pas une force de caractère. Il avait évidemment une force de caractère évidente pour créer ce qu'il a créé. Et quand il voulait quelque chose, je veux dire, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir voulu. Je veux dire, donc, il avait beaucoup de volonté. Et encore une fois, avec l'alcool et les excipients, il pouvait aussi perdre les pédales et devenir à ce moment-là violent. Comme on connaît tous les grands timides, il faut s'en méfier.
En tout cas, il deviendra un sacré militant en 1969 lorsqu'il détruira l'hymne américain sur la scène du festival de Woodstock, très bien illustré, page 146 de votre livre, Yazid Manou.
Je ne sais pas s'il a détruit l'américain. Je ne pense pas qu'il serait de cet avis-là. Ouais, comme il l'a dit à Dick Cavett, qui était un grand animateur de télé à l'époque, une de ses premières télés, parce que Jimmy recevait, ou lui ou d'autres, des lettres d'insultes. Quand on interprète l'hymne américain de cette façon-là, Jimmy l'a trouvé merveilleux, beautiful. Donc, je pense que la façon dont Jimmy jouait l'hymne américain, il serait totalement faux de dire qu'il détruisait l'hymne américain. C'était un patriote. C'était sa façon à lui de représenter l'état de l'Amérique, mais ce n'était pas une destruction de l'hymne américain.
Ce qui est important de savoir, c'est qu'il était très patriote. C'est un enfant de la guerre froide. Bah oui. Donc, il a été élevé dans la vénération de l'Amérique, dans la peur du communisme. On essaie de le montrer, d'ailleurs, dans des petites scènes dans notre bouquin, dans Kiss the Sky. Et donc, il aimait vraiment l'hymne. Et comme le dit Yazid, comme lui, son truc, c'est la musique, et bien finalement, c'est normal qu'il ait eu envie de jouer cet hymne. Et souvent, on parle de cette interprétation de l'hymne américain à propos de Woodstock, mais il l'interprétait déjà bien avant.
D'ailleurs, moi, je reviens, c'est une anecdote personnelle. Bon, je suis fan d'Hendrix depuis 45 ans maintenant, et je l'écoute incessamment, tout le temps. Et j'avais tellement écouté l'hymne américain dans ma jeunesse que quand pour la première fois je me suis rendu compte, je sais pas, je devais regarder la télé et j'ai dû voir une manifestation sportive, les Américains gagnent, évidemment retentit l'hymne américain. Moi je ne connaissais que la version de Jimmy. Et je dis, ah bah tiens, ils reprennent un morceau de Jimmy.
Très drôle. Ouais, c'est bien.
Nous n'allons pas terminer cette émission avec ce moment épique de l'épopée Hendrix. Nous allons nous quitter avec ce qui sera sans doute l'introduction du volume 2 de votre récit, Mezzo et Dupont. Je parle de son arrivée à Londres en 1966 et de ce classique intemporel, Hey Joe.
Hey Joe, I said.
Hey Joe de Billy Roberts par Jimi Hendrix le 23 octobre 1966 à Londres. La suite, on la connaît, vous pourrez la lire dans le livre BD de Yazid Manou, paru aux éditions Petit à Petit, et dans le tome 2 de Kiss the Sky, qui paraîtra l'année prochaine chez Glénat.
Non, après-demain.
Après-demain, bien sûr. Non, 2023.
Ouais, 2023, 2024.
Hein. 2024.
Non, je mets 2 ans pour faire... voilà, j'ai un dessin qui n'est pas simple, donc ça me prend beaucoup de temps...
Et la deuxième partie sera en couleur, c'est important de le dire.
Oui, parce que le tome 1 est en noir et blanc. Voilà. Absolument. Je recommande en tout cas vivement le tome 1 qui raconte la genèse d'un guitare héros du blues américain. Avant de se quitter, notons que d'autres parutions accompagnent le 80e anniversaire de Jimi Hendrix. Une biographie signée Jenny Hendrix, sa demi-sœur, et John McDermott, son associé. Le livre s'appelle simplement Jimmy. Un album live enregistré au Los Angeles Forum le 26 avril 1969 et des NFT. Et là, j'ai besoin de vos explications, Yazid Manou.
J'ai été contacté par un Français qui s'appelle Stéphane Corbe, qui a eu la chance de voir Jimmy en 68 à l'Olympia. Il avait 14 ans. Et il m'a contacté cet été en me disant, voilà, je vais fêter les 80 ans de Jimmy à ma façon. Je dis, ah bon, tu vas faire quoi? Je vais éditer 10 157 NFT faits à partir d'une photo que j'ai prise d'Hendrix en 68. Pourquoi 10 157 ? Parce que c'est le nombre de jours que Jimmy a passé sur Terre.
Mais il faut préciser ce que sont des NFT.
Ce sont des objets numériques uniques. Tout ça, c'est du virtuel. Donc, on va avoir des images de Jimmy Hendrix qu'il a travaillé donc à l'ordinateur. Et les gens, ceux qui sont intéressés, pourront les acheter. Et chaque image est totalement différente de l'autre.
Vive le monde virtuel. Je préfère de loin parler à des vrais gens. Et je vous remercie donc tous les trois d'être venus célébrer Jimi Hendrix ce dimanche. Merci à vous.
Merci
beaucoup.
À bientôt.
Et en ce 27 novembre 2022, on se souviendra que Nathalie Laporte réalisait avec brio cette épopée hendrixienne. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.